Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans l'épître de Jacques au chapitre 3 et du verset 1 à 12. Je vais le lire. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors l'épître de Jacques est en quelque sorte une exhortation pour les chrétiens à la maturité. Une maturité spirituelle, bien évidemment, et qui concerne plusieurs aspects de notre vie. Alors, à titre d'exemple, dans son premier chapitre, Jacques nous montre comment un croyant mature est patient dans les épreuves. Dans le second chapitre, que ce même croyant mature pratique la vérité. Et à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, Jacques va continuer en se préoccupant à ce moment-là, de ce qu'on pourrait appeler les péchés de langue, de ce qui sort de notre bouche. Chapitre 3, par exemple, dans les versets qui suivent, 13 à 18, Jacques avertit sur la sagesse d'en bas, qui est charnelle, conflictuelle, mensongère. Au début du chapitre 4, du verset 1 à 10, il va parler du climat de querelle, des conflits qui existaient au sein de la communauté, et en les appelant à la repentance. Ou encore avec les versets 11 et 12 du chapitre 4, Jacques va nous inviter à cesser de nous critiquer les uns les autres. Et aujourd'hui, c'est donc sur les 12 premiers versets du chapitre 3 que j'ai eu à cœur de m'arrêter avec vous ce matin. Pourquoi ces 12 versets? Probablement parce que je me suis déjà senti particulièrement concerné par ce passage. Mais aussi parce que, comme on va le voir dans quelques minutes, nous sommes tous concernés par ce qui est écrit ici, par cet appel à la modération dans l'usage de la parole. Et cette exhortation de Jacques, on va la reprendre verset par verset, en suivant les trois points au final que Jacques développe. Et ces trois points sont la responsabilité de la parole, versets 1 et 2, la puissance de la langue, du verset 3 à 8, et le caractère contradictoire de la langue, ou aussi la notion de langue double, versets 9 à 12. Alors on va reprendre déjà ce premier verset donc, de ce texte, en le relisant. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Dans d'autres versions, on parle de docteur, de maître. Et quand on entend personne, en tout cas les mots personne, les mots enseignement, on pense bien souvent en premier lieu aux anciens dans l'Église, aux pasteurs, aux diacres, ou dit autrement, aux personnes qui ont été instituées dans ce rôle d'enseigner la parole de Dieu. Alors est-ce que ce verset signifie qu'il faut limiter le nombre d'anciens, par exemple, que ça serait peut-être pas bon d'en avoir plusieurs, ou en tout cas un trop grand nombre? Non. Bien évidemment, ce n'est pas ça que Jacques veut dire. Jacques est en train de nous dire, en fait, ou plutôt il est en train de s'adresser ici à ceux qui n'ont en réalité pas ce statut d'enseignant, mais qui aimeraient l'avoir, à ceux qui aspirent à enseigner, voire même, peut-être, qui vont même jusqu'à usurper cette position d'enseignant. Et ce qu'il faut savoir pour bien comprendre justement le contexte dans lequel a été écrit ce texte, ou à cette époque, c'est qu'à l'époque de Jésus et de Jacques, dans la culture juive, être enseignant, être un rabbin, était une position prestigieuse, où vous étiez acclamé par le monde, où les gens faisaient beaucoup pour pouvoir à vos besoins. C'était une position qui donnait un certain pouvoir. Et donc une position d'enseignant à laquelle beaucoup de juifs aspiraient, mais y compris les juifs récemment convertis. C'est leur culture, hein, ils ont été formés aussi avec cette culture pharisienne. Et ce que veut faire Jacques ici, c'est, par ces versets, c'est les avertir. Ces juifs récemment convertis, il veut les avertir, comme il avait déjà d'ailleurs commencé à le faire au chapitre 1, au verset 19. Hein, il avait par exemple dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Verset 26 du même chapitre, il avait dit aussi « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Alors oui, Jacques n'est pas en train de dire ou de leur dire que personne ne doit chercher à être enseignant, à devenir enseignant, mais il est en train de leur dire qu'il est nécessaire de bien réfléchir à ce que cela signifie et à ce que cela implique. En étant en fait impressionné par l'autorité, par le prestige de la fonction d'enseignant, ces hommes avaient tendance à oublier les immenses responsabilités qui étaient associées, et l'obligation aussi de rendre des comptes. Car oui, c'est écrit, ceux qui enseignent la parole devront faire face à un jugement plus sévère. D'autant plus si au lieu d'enseigner et de partager la vérité de la parole de Dieu, de l'Évangile, telle qu'est la parole de Dieu, eh bien, si on enseigne des faussetés en y ajoutant nos propres pensées, nos propres vérités, ce qui malheureusement arrive bien facilement, sans compter qu'un enseignant se doit de mettre en pratique ce qu'il enseigne. Sinon, qu'est-ce que cela fait de lui ? Un hypocrite. Donc oui, enseigner, ce n'est pas un rôle à prendre à la légère. Proverbe au chapitre 10, verset 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Alors oui, nous péchons tous de différentes manières, frères et sœurs. Nous le savons, nous sommes des pécheurs. Et nous devons l'avouer aussi, l'usage de notre langue est peut-être le domaine dans lequel tous, sans exception, nous sommes concernés. Tous, sans exception, nous péchons par nos paroles. Et au plus nous ouvrons la bouche, au plus nous risquons de pécher. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs le verset suivant, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors la définition la plus courante aujourd'hui du mot « broncher », c'est « réagir ». Sauf qu'ici, il nous faut revenir à l'ancien sens de ce mot. Un sens qui est que « broncher » signifie « trébucher ». Et si on prend d'ailleurs ce verset dans d'autres traductions, on retrouve bien ce sens avec, par exemple, dans la version « parole de vie », on nous parle de « faire des erreurs ». Dans la version Darby, il est écrit que nous faillissons tous. Et en disant justement « nous brochons tous de plusieurs manières », Jacques a donc en vue les fautes nombreuses de notre conduite tout entière. Nous commettons tous des péchés de toutes sortes dont nous aurons à répondre devant Dieu. Mais ici, Jacques va plus loin, avec la suite, en n'hésitant pas à affirmer que si quelqu'un était exempt de reproches sur ses paroles, il serait alors tel un homme parfait. Tel un homme mature, dont le sommet de la perfection serait donc la maîtrise de la langue, de sa langue. Tel un homme qui, en ne trébuchant pas en parole, montrerait alors une véritable maturité spirituelle. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Qui, si ce n'est Jésus lui-même, est capable d'être un tel homme ? Ne trébuchons-nous pas chaque jour encore une fois avec nos vantardises, nos exagérations, nos colères? Ne trébuchons-nous pas également sur les autres, avec nos critiques, nos commérages, nos calomnies, ou encore avec des flatteries, des mots peu sincères mais destinés à nous faire gagner des faveurs? Oui, si nous savions contrôler notre langue, si nous étions réellement cet homme parfait, nous saurions alors, comme il est écrit, contrôler tout le reste de notre corps, de notre vie. Car la langue, comme Jacques va nous l'expliquer, est le membre, en fait, du corps, le plus petit aussi, mais le plus difficile à contrôler. Et pour dépeindre l'action puissante de la langue, Jacques va, au verset 3 et suivant, prendre plusieurs images. En commençant par deux images qui sont là pour nous montrer que la langue peut faire le bien. Même que la langue a un pouvoir surpuissant lorsque celle-ci, encore une fois, est domptée. Versets 3 et 4 nous parlent du mors dans la bouche des chevaux et le 4 du gouvernail pour les navires. Alors le mors et le gouvernail sont deux petits objets, des petits objets pourtant si importants. À quoi sert un mors dans la bouche d'un cheval? C'est écrit à le faire obéir, à le contrôler. Et bien tout comme le mors dirige la course du cheval, la langue dirige la direction de notre vie. Un croyant mature, un croyant exerçant un contrôle attentif sur sa langue, devrait être ainsi être capable d'incliner toute sa vie vers la direction appropriée, vers la direction divine, vers la sainteté de Dieu. Proverbe 13, verset 3 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Proverbe 21, verset 23 nous dit aussi « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » L'image du gouvernail va dans le même sens. À quoi sert un gouvernail sur un bateau? À le faire tourner, à l'orienter, à le diriger. Eh bien, la langue est un petit membre, mais tout le corps peut être dirigé par elle. Tout le corps peut être amené à bon port si nous maîtrisons encore une fois notre langue. Mais est-ce chose facile pour ces deux petits objets de faire leur travail, pour le mors, pour le gouvernail? Pensez à la fougue du cheval, dont le mors doit venir à bout. Ou encore au vent, au courant, aux tempêtes violentes que doit affronter le gouvernail. De si petits instruments face à de si fortes oppositions. Mais il en est de même pour notre langue, qui doit également faire face à des forces contraires. D'abord notre ancienne nature, qui veut nous contrôler, nous pousser à pécher. Mais aussi certaines circonstances autour de nous qui peuvent nous pousser à dire des choses que nous ne devrions pas dire. Le péché en nous et la pression qui vient de l'extérieur sont en effet là pour chercher à contrôler notre langue. Qu'est-ce que cela implique? Le verset 4 nous dit « Un gouvernail dirigé au gré du pilote. » Un pilote. Parce que oui, il faut une main solide pour tenir le mors, le gouvernail. Et il faut un pilote à notre langue. Mes frères et sœurs, c'est une question que je vais vous poser ce matin. Qui ou quoi tient les rênes dans votre vie? Qui ou quoi dirige le gouvernail qu'est votre langue? Certaines personnes n'ont pas la main sur les rênes ou le gouvernail et disent donc tout ce qui leur passe par la tête. D'autres dirigent leur langue à partir de leurs émotions ou d'aspects de leur nature charnelle. Je vous rappelle ce que Jésus a dit, qu'on peut lire aussi dans Matthieu chapitre 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un verset auquel je vais ajouter le verset 9 du chapitre 17 du prophète Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Ça nous donne une idée du pilote qui dirige notre langue. Et la langue, comme le mors, comme le gouvernail, n'est pas autonome. Et Jacques, avec cette notion de pilote, hein, c'est ce qu'il veut aussi, nous continue à nous rappeler que nous sommes responsables de ce pouvoir qu'est la langue. Et Jacques ne va pas s'arrêter là. Il va continuer encore avec une autre image maintenant. Une image dont l'objectif est de nous montrer que la langue, dont nous sommes donc responsables, peut être puissante pour notre bien quand elle est domptée, comme on vient de le voir, mais aussi puissante pour produire du mal, pour détruire quand elle n'est pas maîtrisée. Et c'est ce que montre donc l'image des versets 5 et 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Le feu. Le feu est un élément indispensable à toute civilisation. Quand il est contrôlé, il produit de la chaleur, il nous sert à cuire les aliments, à générer de l'énergie. Mais non maîtrisé, le feu est particulièrement dangereux. Et la flamme d'une petite allumette peut croître exponentiellement et devenir un incendie qui détruira des milliers d'hectares de forêt. Et tant qu'il y a du combustible, de l'oxygène, le feu possède la capacité étonnante de s'étendre indéfiniment. S'il y a besoin d'un exemple, je pense qu'il suffit de regarder en France, en ce moment, depuis le début de l'année, tous les incendies qu'on peut voir, particulièrement cet été. J'ai regardé par curiosité plus de 47 000 hectares brûlés cette année déjà. Pour avoir une idée, 13,5 fois la superficie de Lille, 4,5 fois la superficie de Paris, pour ceux qui aiment le football, 67 889 terrains de foot. Eh bien, la langue aussi est un feu, nous dit Jacques. Si domptée, elle peut être une bénédiction, incontrôlée, elle fait beaucoup de mal et de dégâts. La langue est alors destructrice. Et les dégâts que les mots peuvent provoquer sont importants. Le feu laisse des cicatrices, nos mots aussi, et même avec un pardon. Ce que les autres nous disent, mais ce que nous disons aussi aux autres, peut durer bien longtemps, en bien ou en mal. Un encouragement ou un compliment au bon moment peut inspirer quelqu'un pour le reste de sa vie, mais une remarque, une critique, même occasionnelle, peut infliger une blessure durable à une autre personne. Et à frères et sœurs, que cela nous est difficile de maîtriser notre langue, de maîtriser ce feu que nous détenons et que nous faisons brûler dans notre vie entière et autour de nous. Et je dis difficile, mais je devrais peut-être même dire impossible, d'après ce que dit aussi Jacques. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est le verset 8 qui nous le dit. Si on prend même le verset précédent, on pourrait dire que c'est plus facile de dompter un lion, un tigre, qu'on pourrait croiser, que notre propre langue, qui vit avec nous pourtant au quotidien. Dans la traduction même Nouvelle Bible Seconde, il est écrit que ce mal qu'on ne peut réprimer est un fléau incontrôlable. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il ne faut pas penser que parce que nous sommes enfants de Dieu, ben on est plus fort que les autres. Ce verset dit bien « aucun homme ». Parce que même une fois régénérés par l'Esprit, nous continuons à ne pas savoir maîtriser notre langue. J'en suis malheureusement le premier exemple. Que de paroles mauvaises, que de paroles dures sortent encore malheureusement de ma bouche. Parce que oui, aucun homme ne peut apprivoiser sa langue. Notre langue continue d'être une langue double, une langue qui se contredit, une langue indomptée dans notre vie et au sein même de l'Église, comme on va le voir maintenant aussi avec les versets suivants. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors ici, Jacques fait probablement référence à des conflits qui existaient dans l'Église à son époque, des conflits sur lesquels d'ailleurs il va revenir un peu plus loin au chapitre 4. Mais ce qu'on peut voir aussi par ces versets, c'est que le contrôle de ce que nous disons est en fait la démonstration d'une foi, vivante ou non. Nous ne pouvons bénir et maudire en même temps. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Notre discours devrait constamment glorifier Dieu. Nous ne devrions pas utiliser un vocabulaire ou un ton de parole à l'église et un autre à la maison ou un autre encore au travail. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça, on le trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Un autre verset de cette épître, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et pourtant, cette langue double, comme je vais dire, existe. Elle existe dans l'Église, elle existe dans nos vies. C'est une langue double qui est en réalité la marque la plus visible de notre inconstance. La marque la plus visible de notre péché, de notre manque d'amour pour Dieu, pour notre prochain. Cette langue qui, en se contredisant ainsi, manifeste en réalité quoi ? Elle manifeste en réalité notre besoin criant de l'aide de Jésus. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, puisqu'il est contradictoire en soi que de la même source jaillissent donc le doux et l'amer, ou qu'un figuier produise des olives, ben, si réellement de mauvais fruits et de l'eau amère continuent à sortir de notre bouche, cela signifie qu'il n'y a pas de contradiction. L'arbre est mauvais et la source est mauvaise. Ça signifierait que nos paroles de bénédiction ne peuvent être alors qu'une seule chose, l'acte d'une foi morte et hypocrite. Matthieu chapitre 12, versets 33 et 37 dit Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, frères et sœurs, la lecture de ces 12 versets, que j'ai simplement reparcouru avec vous, parce que je pense qu'ils sont déjà assez explicites par eux-mêmes, il faut admettre une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'encouragement dans ce passage. Il n'y a pas de résolution non plus du problème de la langue. Jacques ne nous donne pas de solution. Il nous dit au final simplement quelle est la nature du problème et comment cela devrait être. Que les chrétiens authentiques devraient manifester la pureté de leur cœur par la pureté et l'authenticité de leurs paroles. Mais pourquoi s'être arrêté là? Pourquoi ne pas nous avoir donné peut-être une solution explicite? Je pense en fait que ce que voulait Jacques, c'était nous amener, et amener les personnes à qui il s'était adressé déjà à cette époque, mais nous aussi aujourd'hui, à considérer notre propre situation. À considérer, à réaliser la profondeur de notre péché qui coule si facilement de nos lèvres. Et Jacques a voulu nous rappeler, je pense que seul le retour de Christ nous donnera la victoire sur le fait de pouvoir tenir en bride notre langue, et qu'en attendant, nous ne pourrons qu'échouer, si nous essayons de dompter notre langue par nous-mêmes. Car oui, et c'est là en définitive l'exhortation de Jacques, une solution et une aide existe en attendant le retour de Christ. Personne ne peut apprivoiser la langue, mais la langue peut être amenée sous la puissance et le contrôle du Saint-Esprit. Alors oui, nous passons nos journées, nos semaines à constater la manifestation du péché dans nos vies, particulièrement encore une fois en voyant ce qui sort de notre bouche. Mais ceci nous montre simplement que dans nul autre domaine que la parole, nous avons autant besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans notre manière de parler, d'interagir les uns avec les autres, voire même quand nous parlons de Dieu lui-même. Dans le psaume 141, on peut lire « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » La seule aide donc pouvant me rendre capable d'utiliser ma langue pour la gloire de Dieu, c'est d'autoriser sa parole à demeurer à moi, à demeurer en moi. Et même si abondamment que Dieu puisse faire son œuvre en moi, si abondamment que je ne puisse pas parler autrement qu'avec sa parole. Dieu nous a sauvés par le sang de son Fils. Nous avons besoin encore aujourd'hui de voir que la parole de Dieu nous sanctifie. Et plus je me réveillerai le matin pour me nourrir avec les Écritures, plus nombreuses seront les personnes m'entourant et m'édifiant de la parole de Dieu, plus Christ fera son œuvre de sanctification en moi, et plus Christ formera ma langue. Et le Proverbe 4, verset 23 nous dit aussi « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est la question aussi que je veux poser ce matin. Quelle source voulons-nous pour nos paroles, pour notre vie? Et à celle-ci, je réponds, à cette question, je réponds, Jésus. Seul Jésus peut tarir à sa source cette méchanceté, cette tromperie naturelle de notre cœur. Oui, seul Jésus peut nous délivrer de cela, de ce péché de la langue. Alors demandons-lui cette délivrance qu'il est prêt à nous donner. Et alors l'abondance qui jaillira de notre cœur, et donc de notre bouche, sera celle de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et non plus la nôtre. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide chaque jour à lui ressembler, et que son esprit surtout soit là pour être une garde sur notre bouche. Amen.